Voilà, aujourd'hui on va parler de l'homilétique.
Apa tujitubanshe ilongesha ya bulongoloji ni bulonji kwa mifundu.
C'est un terme de théologien.
Mwakuwa bulongi kwa nkinji mutulasa twa bena kundesha mission.
Mais ça veut dire tout simplement
mwakuwa ujumbuija
que c'est l'art de prêcher la parole de Dieu.
Mushindu wa kulongesha mwakuwa vijimukulu anji ya nzambi.
C'est l'art de préparer une prédication.
Mushindu wa kulongolola buyishi.
Alors je vous donne une courte introduction.
Ndinu pesha mbangilo mukesi.
En trois points.
Mumia kuyisatu.
D'abord, la prédication, c'est quelque chose qui s'apprend.
Buyishi nchintu chijibuba ya kulong.
Quelque chose qui s'apprend, c'est une technique.
Luigi, mishindu.
Mais aussi, si on donne un texte biblique,
Pajiba filachi sumbucha mifundu,
le même texte à différentes personnes,
Bangata mifundu eyi kajiba vesha bantu bashilangane,
est-ce qu'elles vont composer la même prédication?
Bantu abo pangayabu pangayabu muti osu niba ikwenzi jilo onshida momo mwanyi.
Pas du tout, hein.
To, kabi akuyiku kumbani.
Chacun présentera un aspect ou un autre.
Muntu na iku ishi wendu mushindu, muntu na ishi wendu mushindu.
C'est un peu la même chose que les évangiles.
Bijidi ya momo mwani mfungilu walumu lui mpe.
Ou par exemple, Matthieu et Jean ont écrit chacun un évangile.
Bumuji mata inyone bosu wa kufunda lumu lwimi.
Les deux disciples ont connu Jésus de la même manière.
Baiji babijaba bakamanyi Yesu jachimu.
Ils l'ont suivi pendant plusieurs années, ils le connaissent bien.
Bakumulonda bijimu byabunyi bamumanyi bini.
Mais quand ils écrivent l'évangile, ces deux évangiles qui ont chacun une caractéristique particulière. Et c'est la même chose pour les prédications. On peut partir du même texte et développer des thèmes différents. Donc on peut dire que ici on a ça dépend des dons et des capacités de la personne qui prépare la prédication. Mais il faut pas oublier que c'est le sylvain du Saint-Esprit.
Pardon? Ah, quand tu es moïne, mujumu wanyuma wajijila.
C'est un aspect important parce que Dieu veut œuvrer dans les cœurs. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de travailler au fond du cœur. Ça, c'était une introduction très courte. Maintenant, je vais donner quelques principes de base. D'abord, ça concerne le prédicateur. Le prédicateur doit être convaincu de deux choses principales. Il doit être convaincu de la double origine de la Bible. Dans la Bible, il y a le côté divin, la révélation de Dieu, et il y a aussi un côté humain. L'exemple, c'est, on peut prendre comme exemple celui que j'ai donné avant. l'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Jean. Les deux ont été inspirés par Dieu. Mais Matthieu verra plutôt l'arrivée du Messie. Tandis que l'évangile de Jean ne parle pas du tout de la naissance de Jésus. Alors d'un côté, Dieu est l'auteur de la Bible. Ça garantit son autorité absolue. On parle donc de l'inspiration de l'Écriture. Qui nous confirme toute écriture est inspirée de Dieu. Mais aussi des hommes ont rédigé la Bible. Et cela garantit sa proximité. C'est pas une révélation qui vient comme ça du ciel et puis. Mais ceux qui l'ont écrit ont connu la nature humaine, ont vécu dans ce monde.
Deux tiers en
référence. Il nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc il y a le côté divin et le côté humain. Mais tout est inspiré par Dieu. Alors dans la Bible, il y a une quarantaine d'auteurs différents. Mais chaque auteur a rédigé selon sa personnalité propre. Selon son époque, selon sa culture. Donc la Bible est infaillible, incapable de se tromper. Où il est dit, Dieu ne ment pas. Et puis la Bible est une parole vivante. La Bible est agissante, elle a une action, elle agit. Et Esaïe
55,
verset 11, Dieu confirme que la Bible qui est semée, la parole de Dieu qui est semée, elle ne reviendra pas à moi sans effet, dit Dieu. Alors le rôle du prédicateur est de mettre en avant ce que Dieu a voulu dire. Donc il faut annoncer pleinement la parole de Dieu.
Colossae, chapitre 1, verset 15.
Où il est dit qu'il faut annoncer pleinement la parole de Dieu. Et la Bible est pleinement suffisante. On va lire dans 2 Timothée 3:16.
Yakubala Timothée mwibidi chapitre 3. Vincent, wajikumi ni mwisambo mbo.
Hivyo ndio ya mpa
On voit que la Bible est tout à fait suffisante. Et il y a un lien remarquable entre son inspiration. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc il y a un lien entre son inspiration et son action et sa fonction. Elle peut agir dans bien de bien des manières différentes. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre. C'est l'écriture qui convient, qui convainc. Je peux essayer de convaincre quelqu'un avec des arguments. Mais finalement, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible, l'écriture est là aussi pour corriger. Pour mettre des limites. Et le but de tout cela, c'est de préparer le chrétien pour toute bonne œuvre. Donc la prédication est très importante. Je vais rapidement mentionner quelques exemples de prédication et de leur importance. On peut penser à Moïse. Alors Moïse n'avait pas encore la Bible pour chercher des textes, mais recevait le texte de Dieu. On sait que c'est lui qui a rédigé le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible. Et on voit des exemples dans l'Exode, où Moïse allait écouter Dieu. Et puis après, il retournait vers le peuple et il expliquait ce qu'il avait entendu. Il l'expliquait, il le mettait par écrit aussi. En mentionnant Moïse, il a aussi écrit le livre du Deutéronome. C'était un des livres qu'on a étudié l'année passée à la SBS. Et le Deutéronome est une sorte de prédication aussi. Il a une certaine structure. Et le Deutéronome a été donné à la fin du voyage à travers le désert. Quand le peuple allait entrer dans le pays promis, le pays de Canaan. Et tous les anciens, les personnes âgées, étaient décédés dans le désert. Et c'était une nouvelle génération qui devait être instruite. Et alors le livre de Deutéronome est comme un rappel d'abord des interventions de Dieu. Un rappel de ce que Dieu avait fait pour le peuple, pour le délivrer. Qui rappelle aussi la puissance et l'amour de Dieu pour ce peuple. Puis ensuite, il parle de beaucoup de lois différentes. Comment les interpréter et les appliquer
And
puis un troisième point, c'est Moïse encourage à l'obéissance. Il
ne
suffit pas de connaître certaines lois ou la Bible, mais il faut encore vouloir le mettre en pratique. On voit que la prédication dans l'Ancien Testament a conduit à des réveils spirituels. Et chaque réveil spirituel que je vais mentionner, chacun, à l'origine de chacun, a été un retour à la parole. Le roi Ézéchias, dont on a parlé ce matin, était un roi dont le père était absolument éloigné de Dieu. Mais quand il est devenu roi, il a voulu faire connaître la parole de Dieu. Il a voulu que tous ceux qui participent à l'adoration dans le temple de Dieu
fassent
pas simplement des holocaustes ou des sacrifices par habitude, par devoir. Mais il voulait que tous soient ayant un cœur préparé. Donc il a voulu toujours encourager l'enseignement de la parole. Mais une parole qui aille plus loin que le cerveau.
Il
voulait que chacun soit touché dans son cœur.
Et
on voit que ça produit un réveil extraordinaire. Et par exemple, ils ont fait une fête de Pâques extraordinaire. Nous, on fait la fête de Pâques chaque année, on s'en souvient. Et le peuple d'Israël aurait dû fêter cette fête chaque année aussi. Mais on voit que durant la période des rois, il semble que la Pâque a été fêtée que quelques fois. Et ça a été le cas sous le roi Ézéchias. C'était la suite d'un retour à la parole de Dieu. Mais dès que le roi Ézéchias est mort, c'est son fils Manassé qui a succédé. Et c'était un roi qui était un des pires rois, il a rejeté l'Éternel. Et le temple a été souillé, c'était plein d'idoles. Mais plus tard est revenu un roi Josias. C'était un jeune roi, il était roi à 8 ans. Et on voit qu'à 16 ans, il recherche l'Éternel. Et quand il veut purifier le temple, ôter toutes les idoles, on retrouve dans le temple un exemplaire de la loi. C'était probablement le Deutéronome. Mais on avait même oublié l'existence de ces livres. Alors il découvre que c'est la parole de Dieu. Il commence à le lire. Et alors il est choqué parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne connaissait pas. Et Et alors, il veut faire découvrir à son peuple, il veut enseigner son peuple. Et de nouveau, il y a un réveil. Et là aussi, ils vont fêter une fête de Pâques extraordinaire. Mais le retour, c'était dû à la parole de Dieu qu'on a de nouveau enseignée. Alors le roi Josias, on lit ça dans les chapitres 22 et 23, deux rois. Chapitre 22-23. 22 et 23. Deuxième livre. Et puis je vous donne aussi à propos du roi Ézéchias les références. On trouve ça dans le deuxième livre des chroniques. Entre les chapitres 29 et 32. Vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été déporté. Et ensuite, après environ 70 années de déportation, certains juifs sont revenus à Jérusalem, mais ils avaient peu de connaissances. Et ils ont dû redécouvrir la Bible aussi. On verra plus en détail après dans le livre de Néhémie, chapitre 8. Un grand réveil parmi le peuple. Parce qu'on a de nouveau retrouvé la Bible et l'a expliqué. Alors de nombreux passages de la Bible témoignent de l'impact puissant de la prédication.
Et de
la prédication et de l'enseignement de la parole de Dieu. L'apôtre Paul consacre trois lettres à l'instruction de Tite et Timothée. C'était pour les encourager à se consacrer à l'enseignement. Par exemple, Timothée avait été laissé dans l'assemblée de l'Éphèse. Il est encore jeune.
Et
il a la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. On peut lire un texte dans 1 Timothée 4.
Ça veut dire chapitre 4.
1 Timothée, première lettre à Timothée, chapitre
4.
On peut lire les versets 13 à 16.
Le verset. Quel verset ?
1 Timothée 4. Les versets 13 à 16.
Tu vas dire là, Timothée, comme dit le chapitre, tu m'as dit, verset 13, tu m'as dit, tu m'as dit, tu
Kunyukuti shekeze, unanukile, kushi
Je vais relever deux choses. Au verset 13.
Mon verset a dit que nous sommes.
Applique-toi à lire les Écritures. À lire les Écritures dans l'Assemblée. À encourager, à enseigner. Et le don qu'il avait reçu, c'était peut-être le don de l'enseignement.
Et
il y a un autre point qui concerne le prédicateur. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Il
ne
faut pas seulement que je puisse enseigner, mais il faut que ma vie personnelle corresponde aussi à ce que j'enseigne. Il faut avoir cette cohérence. Parce que les auditeurs vont tout de suite remarquer si c'est sérieux ou pas. Si vous avez des enfants, ils savent très bien voir s'il n'y a pas de cohérence.
Ils
vont dire, papa, tu fais ça. Mais tu nous dis autre chose. Comment avoir le respect et l'autorité? Si j'enseigne une chose et que ma vie personnelle ne correspond pas. Alors on va passer à trois versets clés.
Il faudrait
presque les mémoriser. Le premier est dans le livre d'Esdras. Esdras 7, verset 10.
Chapitre 7.
Le peuple d'Israël était revenu après la déportation. Alors le peuple d'Israël a été déporté, il est revenu. Ils
ne
sont pas très très nombreux. Mais ils ont rétabli le temple à peu près. Mais ils ont certainement oublié beaucoup de choses. Et Esdras est revenu après quelques années. Et il est là pour enseigner la parole de Dieu. Alors Esdras nous sert d'exemple. Quelles sont les étapes de la préparation d'Esdras pour être un prédicateur? Quelle est la première étape? Il s'est appliqué à étudier la parole. Donc il était motivé pour apprendre
la parole.
Donc il avait appliqué son cœur, c'était une décision qu'il avait prise, un choix.
Esdras
avait appliqué son cœur à étudier.
Et
l'étape suivante, après avoir étudié, il a
l'a mis en pratique.
Ah, écoutez, comme on tient des dix.
C'est très important. Parce que quand on met en pratique la parole de Dieu, on acquiert de l'expérience. On l'applique à sa vie personnelle. Et ensuite, il faut l'appliquer. L'appliquer à soi-même. Puis ensuite, l'enseigner.
Et
il y a tout ce côté aussi de compréhension. Étudier, c'est chercher à comprendre. Alors, c'est facile à souvenir. Esdras avait appliqué son cœur. À étudier, à mettre en pratique la loi de Dieu. Puis ensuite, à enseigner les prescriptions, les règles. Donc ça se résume à trois étapes principales. Maintenant, on va prendre un autre exemple dans le livre de Néhémie.
Au chapitre
8. Ici, on peut distinguer certains éléments importants. Dans ce court verset, il y a plusieurs éléments principaux. Dans une prédication. Quelles étapes voyez-vous? Quels éléments voyez-vous dans ce verset? Donc la première étape, il lisait distinctement. Tout le monde devait comprendre. Et dans l'assistance qui écoutait, tout le peuple était rassemblé. Il y avait des adultes, il y avait des enfants. Alors il lisait distinctement dans le livre. Dans le livre de la loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il y a encore une étape importante. Il fallait faire comprendre, donner le sens. C'était important que chacun comprenne. Donc c'est... Ça nous enseigne sur la préparation d'une prédication. Alors on a identifié ces trois éléments principaux. La lecture de la parole. L'enseignement du sens. Et que chacun puisse entendre, lire distinctement. Et l'impact de cette prédication, de cet enseignement, a été extraordinaire. C'est décrit dans les versets 9 à 12. D'abord, le peuple se met à pleurer. Parce que confronté à la parole de Dieu, ils réalisent qu'ils avaient fait beaucoup de choses
qui ne plaisait pas à Dieu.
Mais
les responsables, Esdras, les Lévites, Néhémie, disent, mais ne soyez pas tristes. Ce jour est un jour de joie.
Et
verset 10 à la fin, c'est là qu'on dit ce verset connu. C'est la joie de l'Éternel qui fait votre force. C'est un verset connu parmi vous. C'est un verset qui fait bon de se rappeler que c'est la joie de l'Éternel qui nous encourage. Et puis après, ils ont pu faire la fête ensemble. L'ensemble du peuple est donc allé manger et boire. Et le dernier verset, je répète le dernier verset. Ils avaient en effet compris les paroles qu'on leur avait enseignées, exposées. On voit l'effet de la parole de Dieu dans ce peuple. Et d'une prédication qui avait été sérieusement donnée. Elle a eu un impact extraordinaire. Je vais vous donner encore un verset clé qui fait partie d'une prédication assez particulière. Et cette fois, c'est dans un exemple dans le Nouveau Testament qu'on trouve dans le chapitre 24 de Luc. Ce chapitre 24 de Luc retrace l'expérience de deux disciples. L'expérience de deux disciples. Parce que Jésus avait été mis à mort. Il avait été mis dans le tombeau. Et tout le monde pensait, ben voilà, c'est fini. Et ces deux disciples sont tout tristes, ils retournent au village. Ils parlent entre eux de ce qui s'était passé à Jérusalem. Et c'est là que Jésus les rattrape. Et ils parlent ensemble. Ces disciples ne reconnaissent pas Jésus. Ils sont préoccupés parce qu'il les attriste. Et Jésus leur parle. Et plus tard, ils diront, parce qu'au moment, le soir tombait, il fallait rentrer à la maison. Il accepte l'invitation des deux disciples à rester vers eux. Et pendant qu'ils sont en train de partager le pain, les deux disciples reconnaissent que c'est Jésus. Et Jésus disparaît. Et après avoir entendu Jésus, qu'est-ce qu'ils disent ? Luc 24, verset
32.
Quelqu'un peut nous le lire?
Moi, je suis venu à la maison. Je
Tout à coup, ils se sont dit, mais leur cœur brûlait, leur cœur était touché quand Jésus expliquait les Écritures. Ça avait touché leur cœur.
Et quel était le sujet de cette prédication? C'est dans le chapitre 24. Les versets 25 à 27. Quel était le centre de la prédication, le sujet de la prédication? C'est Jésus, Jésus-Christ.
Yes, Christ.
Et personnellement, j'aurais beaucoup voulu être là pour... parce qu'il prenait tous les passages de l'Ancien Testament qui parlaient de lui.
Et
certainement qu'il a pris les passages qu'on a lu hier dans
Ésaïe. Les
versets qui annonçaient qu'une vierge aurait un enfant. Que cet enfant serait Emmanuel. Etc. Il y aurait des psaumes qu'il a cités certainement.
Et
ce qui est important, c'est qu'il leur expliqua dans toutes les Écritures. Il a expliqué, il a fait comprendre. Il a expliqué tout ce qui le concernait. Alors Christ et son œuvre sont toujours, doivent toujours être au centre de la prédication. Pour que la prédication touche le cœur des auditeurs. Comme il a touché le cœur de ses deux disciples. Alors c'est quelques exemples de prédication. Qui nous dit que finalement la prédication c'est relativement simple. Il y a un premier point, c'est qu'il faut d'abord comprendre le texte. On reviendra sur ces sujets.
Mais
je mentionne simplement comprendre bien le texte. Mettre Christ au centre. C'est dans le texte sur lequel je vais faire une prédication. Voir comment il contribue au salut que Dieu accorde. Aussi, il faut comprendre comment le mettre en pratique. On a vu que c'était un... une chose importante de le lire publiquement, à haute voix, distinctement.
Et
il faut avoir l'art d'enseigner cette parole pour toucher les cœurs. On revient au point de l'œuvre du Saint-Esprit.
C'est
grâce à ça que les cœurs sont touchés. Maintenant, comme principe de base, il y a deux types, il y a les types de prédication. Quel genre de prédication je peux apporter? Alors on peut classer les prédications en deux types ou en deux catégories générales. La prédication thématique ou la prédication textuelle.
Buishi bujibuika leni chibaji cha munyuma kiloku ha pachena bwalo esemwa ha pachena bwalo
ba lifundo
ah
j'explique après
ujumbuishi
avec des exemples
nous mbuishi ni bilejelu
on verra que chaque type a des avantages et peut-être des inconvénients
netumune chibaji chonso chijini bipata bimpe anyi chijini mpuku puku.
Alors la prédication thématique, c'est l'enseignement d'un thème. Et le prédicateur recherche les différents textes bibliques qui s'y rapportent. Je vous donne quelques exemples de thèmes. Par exemple, ça peut être une biographie d'un personnage de la Bible. Personnellement, j'ai fait aussi une fois une prédication sur Barnabas. C'est un personnage, un disciple qui apparaît au début des Actes. Et son nom signifie encouragement. Donc c'était une personne qui avait l'art d'encourager les gens qu'il rencontrait. Et je me suis dit, ben, je recherche Barnabas à différents endroits des Actes. Et je regarde, mais qu'est-ce qu'il a fait dans cette circonstance? Qu'est-ce qui est encourageant dans sa vie? Ça, c'est un aspect thématique. Et puis en suivant ce Barnabas, on voit qu'une fois il était à Jérusalem avec les apôtres.
Et
l'apôtre Paul voulait se joindre. Mais les gens se méfiaient de lui. Et Barnabas a été chercher l'apôtre Paul. Ben voilà un acte encourageant pour l'apôtre Paul.
Il
se sentait mis à l'écart. On n'avait pas confiance en lui. On racontait beaucoup de choses sur son
passé.
Le Barnabas va vers lui. Parle avec lui. Et le prend par la main pour l'amener aux apôtres. Et je pense que c'est un souvenir inoubliable pour l'apôtre Paul. On voit aussi Barnabas qui voyage avec l'apôtre
Paul.
Il voit différentes assemblées. Et de quoi est-ce qu'il parle? Il parle de toute la joie qu'ont eu des assemblées de recevoir l'évangile. Et c'est vrai que c'est encourageant pour des chrétiens de savoir que Jésus, que l'Esprit de Jésus est à l'œuvre. Et tout le monde se réjouissait que Barnabas passait dans leur assemblée. Voilà, apporter des bonnes nouvelles, c'est aussi encourager. Alors, il y a des exemples, comme je disais, des thèmes, comme une biographie. Des fois, ça s'adresse plutôt à des aspects moraux ou philosophiques. Un sujet tel que pourquoi Dieu permet-il la souffrance? C'est un exemple qui ressort, c'est un thème qui ressort tout le temps. Et il faut être prêt à y répondre. Mais répondre en disant, mais je ne sais pas tout, il y a aussi des mystères du côté de Dieu. Certains thèmes peuvent être historiques. Par exemple, dans le texte d'Ésaïe, j'ai souvent mentionné que le peuple allait partir en exil. Il faut essayer d'en trouver un enseignement pour aujourd'hui. Ou bien on peut prendre comme thème un mot-clé. Un mot qui résume un peu. Qui résume le thème, comme pour Barnabas, ce serait l'encouragement.
Ah, bon, moi, j'ai Barnabas, tu t'en veux, moi, je suis
mais ça peut être aussi la foi. Ou l'amour. Il y a aussi des aspects plus théologiques qu'on peut prendre comme thème. La divinité de Christ. Ou bien, ce matin, on a entendu un enseignement sur la Trinité. Comment le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui sont distincts soient quand même une seule personne, Dieu. Ça c'est un thème plutôt théologique. Et puis les thèmes, ça peut être des thèmes de la vie de tous les jours. C'est des thèmes très concrets. Ça concerne le travail. Ça peut être l'éducation des enfants. Les relations.
Malanda.
La vie de couple.
Etc.
Voilà, c'est des thèmes qui touchent notre quotidien. Et on va trouver des passages dans la Bible qui nous parlent de toutes ces choses. Alors j'ai dit qu'il y a des avantages et des inconvénients dans cette approche. Alors un avantage, c'est peut-être plus facile à préparer que quand on a un texte continu. Parce que les thèmes répondent des fois plus aux besoins et aux questions des auditeurs. Et c'est certainement une présentation plus vivante que simplement qu'un commentaire assez linéaire dans un texte. Mais après, la tendance, c'est peut-être de reprendre tous les thèmes que j'aime. Et puis, il y a aussi toujours un danger. C'est de faire un amalgame, de mélanger. De mélanger des versets que je choisis moi et que je vais mettre peut-être ensemble pour défendre une idée personnelle. Donc pour traiter des thèmes, il faut avoir aussi une bonne connaissance biblique. Pour aborder des thèmes sans risquer de trahir la pensée générale de l'écriture.
Il
faut vraiment avoir une bonne connaissance, une vue d'ensemble. Pour ne pas risquer de dévier dans des choses que j'aimerais peut-être imposer. Vous voyez là le danger. On fait des choix qui nous conviennent. Alors ça c'est la prédication thématique. Et puis il y a la prédication textuelle. Alors c'est une portion de la parole. C'est le texte de l'écriture elle-même qui dicte le thème et la structure du message. Si je fais une étude verset par verset, la structure est dictée par la Bible. Donc la prédication textuelle est la proclamation d'un texte de l'écriture qui doit être étudié et analysé dans son contexte pour en faire ressortir le sens. Je peux prendre des exemples. Par exemple, on a vu hier Ésaïe chapitre 6.
Où Ésaïe
a cette vision de la gloire de Dieu. La sainteté de Dieu. Et en face de ça, Ésaïe se sent comme un malheur à moi parce que je suis pécheur. Alors on voit, c'est, si je lis le texte de manière continue, ma prédication contiendra d'abord la présentation de la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu, qui va révéler notre besoin de purification. C'est peut-être c'est là la structure qui sera donnée si je lis prends ce passage. Alors on peut prendre plusieurs exemples où le contenu et la structure est dictée par la Bible. L'année passée, on avait étudié l'épître de Jude.
Et
si je fais une prédication sur l'épître de Jude, ça me motivera à défendre la foi. Défendre la foi face à des simulateurs qui veulent nous en écarter.
Ce n'est
pas forcément des faux enseignants, mais des gens qui sont là et qui ont une vie pas du tout en rapport avec la vie du croyant.
Et
le danger, c'est petit à petit, on s'habitue. Et petit à petit, on va peut-être les imiter. Alors, comme commentaire, je veux dire que la prédication textuelle, c'est la forme même de l'écriture.
Hein.
La Bible est un texte qui nous enseigne. Et je lis la Bible chapitre par
chapitre.
On voit que Dieu n'a pas inspiré une sorte de dictionnaire ou encyclopédie. Où je peux rechercher des informations ici et là. Mais c'est une série de livres que l'on découvre en les lisant d'un bout à l'autre. Il y a aussi un danger ici. C'est de prendre un texte de l'écriture. Et au lieu de rechercher le sens et qu'est-ce que je vais apprendre par cela, Je vais des fois prêcher tout ce que je ressens que ce que dit le texte. C'est vrai que c'est un danger réel.
Hein?
Alors voilà, ça c'est quelques principes de base. Et maintenant, je vais prendre 7 points l'un après l'autre. 7 étapes qui nous conduisent du texte au message. Alors le premier point, c'est la sélection du texte. C'est le choix du texte.
On peut effacer.
Sélection. On peut dire choix du texte.
Ah, disons-la, y'a mi fond.
Alors ça dépend des églises des fois. Parce que des fois on peut choisir de prendre un évangile et de chaque dimanche avancer d'un chapitre à l'autre. Mais là, il a fallu faire un choix quand même. Quel livre de la Bible? On
ne
peut pas prendre qu'un livre, que des livres du Nouveau Testament. Et oublier l'Ancien Testament. Il faut avoir aussi un certain équilibre. Pour ne pas négliger des livres importants de la Bible.
L'un
des premiers points pour le choix, c'est se poser la question, quels sont les besoins de l'Église? Maintenant, par exemple, on est à l'époque de Pâques. Ben, c'est l'occasion de retravailler, de relire l'histoire de Pâques. Et ça se fait dans beaucoup d'églises. Mais ça ne veut pas dire que ces textes, il faut les lire qu'à Pâques. Il faut s'en souvenir toute l'année. Et chaque fois qu'on prend la scène, on se rappelle, on se souvient. Chaque fois qu'on prend la scène, on se souvient de la mort du Seigneur. Et du fait qu'il est ressuscité. Donc on se souvient de la Pâque. Toute l'année. Mais peut-être maintenant, l'époque de Pâques, c'est aussi de rappeler ce que c'est la Pâque. Et en tout cas dans nos pays en Europe, beaucoup de gens ont congé les jours de Pâques. On ne va pas travailler. Mais personne ne sait pourquoi. C'est comme Noël maintenant dans nos pays. Beaucoup de personnes pensent que Noël, c'est échanger des cadeaux, faire la fête.
Mais
même dans les écoles, on n'a pas le droit, l'enseignant n'a pas le droit de dire ce que c'est que Noël. Bon, c'est une digression sur discerner les besoins de l'Église. Alors,
il
faut aussi choisir un texte de longueur appropriée. Et puis, il faut repérer le début d'un nouveau sujet et la fin. C'est repérer des marqueurs qui montrent que c'est le commencement et puis la fin d'un texte, c'est un
tout.
Et puis, il faut aussi éviter le piège des idées préconçues.
Ah, bilibi kengala tu yoku tambu kwe vuka matei. Ah, menja aku chinki jila.
Je veux absolument faire passer ma pensée ou ce que je veux dans l'église. Alors je vais choisir un passage. De le présenter d'une manière que ça soutienne ma pensée personnelle. Ce n'est pas tirer le sens du texte. Et quand il y a un texte qui parle de plusieurs choses, il faut bien discerner le thème central du passage. Alors là, j'avais prévu un exercice, mais qui ne peut pas se faire maintenant. Mais je vais vous proposer un petit exercice que vous pouvez lire plus tard. Je vous propose de lire Matthieu.
Matthieu 6.
Alors, première question, quel est le thème général?
Le concours, le général, le
général, il faut le chercher dans ce texte. C'est un mot peut-être qui va se répéter une, deux, trois
fois.
Et puis après, il faut découper le texte en trois parties.
Donc,
découper le texte. Aux trois sections.
Mon bitou va bitatou.
C'est parti.
Ouais, bitou.
Et puis dire quel est le thème?
Vingéou, bitou va bitatou, bitou va soleil. On fait le bois, tiens le bois, le chagat pour la gombal, qui vit guisade.
Le thème de chaque partie.
Si tu veux, tu as pas de gosse, le vite fait une salle. Ou à mon avis, tu veux, tu ne m'as pas de gosse, tiens le bois, le chouchet. Si tu veux, tu vis, tiens le bois, le chouchet. Si tu veux, tu sais, tiens le bois, le chouchet.
C'est Jésus qui enseigne.
Il m'a gagné, et yes, ou du long et chat.
Il y a un thème général.
Vous dites, tiens le bois, le chine, hein.
Et puis il faut apprendre à découper en sections.
Bidimi kenela
ensemble.
Kumanya mokuko solola.
Et puis on donne un nom peut-être.
Au fil de Kujina,
on mettait
un nom
de chaque partie.
Ah, tu as dit tu vas chance.
Alors demain, quand on reprendra, on pourra commencer par écouter vos découvertes.
Ah, tu y comme na malona ou y kuju mwana na kaya nu nitu umbo makela kumpalo kubang.
Peut-être que je vais m'arrêter ici.
Avant
de commencer. On gagne quelques minutes. Mais le prochain thème, ça sera la compréhension.
Trouver
le sens du texte.
Lumbu,
il y a quelques points, mais qui... On ne veut pas les faire rapidement comme ça pour les avoir faits, mais on veut essayer de comprendre. Voilà, merci pour votre attention.